l'université, et ce au lendemain d'une mobilisation pro-palestinienne tendue à Sciences Po Paris. Celle-ci a été conclue par un accord entre manifestants et direction. De l'autre côté de l'Atlantique, une centaine de personnes considérées comme des manifestants pro-palestiniens ont été interpellées sur le campus d'une université de Boston. Leur campement a été évacué par la police. Douche froide sur le Parc des Princes. Sous une pluie battante, le Paris Saint-Germain a calé contre le Havre hier en concédant un résultat nul, 3 buts partout. Un nul qui retarde mathématiquement son sacre de champion de France. Pourtant, une victoire face aux Normands qui luttent pour le maintien aurait sacré le club parisien champion pour la 12e fois de son histoire et l'aurait lancé sereinement vers la première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions. Celle-ci jouera contre les Allemands du Borussia Dortmund, battus sèchement par Leipzig 1-4 hier. Elle devait battre l'Angleterre pour remporter ce tournoi Destination Féminin 2024. C'est râpé. La France s'est inclinée dans ce crunch face aux 15 de la Rose hier. Score final 21-42. Une défaite à Bordeaux sous les yeux de 28 000 spectateurs au stade Chaban-Delmas. Un record d'affluence pour un match de rugby féminin en France. Et puis enfin, gros grêlons, tonnerre et inondations. De violents orages ont frappé le sud-ouest de la France en fin de journée hier alors que 8 départements étaient placés en vigilance orange par Météo France. 14 000 éclairs ont été enregistrés dans le pays pour la journée d'hier. L'alerte a pris fin dans la soirée. Elle, aucun dégât significatif n'a été noté après le passage des orages.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Inflammatoire chronique, peu connue aujourd'hui, qui se manifeste par des lésions cutanées, formant des plaques rouges sur la peau, bien limitées et épaisses, souvent recouvertes de croûtes blanchâtres. Le psoriasis peut se limiter au cuir chevelu, aux genoux, aux coudes ou encore aux pieds et aux mains. Dans les cas graves, il peut gagner la totalité du corps. On estime aujourd'hui que 2 millions de Français sont atteints de psoriasis. C'est une maladie en partie génétique, mais différents facteurs environnementaux peuvent également la révéler, comme le stress, des agents infectieux ou encore la prise de médicaments. Cette maladie évolue selon les personnes, avec des poussées mais aussi des rémissions, au cours desquelles les lésions apparaissent et disparaissent. À ce jour, aucun traitement ne permet de guérir complètement du psoriasis, mais il est toutefois possible de le maîtriser et de diminuer les lésions afin d'améliorer la vie des patients. Jean-Noël Dahendorfer, dermatologue à Paris, nous explique les conséquences de cette maladie.
Les risques de ne pas soigner son psoriasis, le premier c'est l'inconfort lié à l'atteinte de la peau et à l'importance de la surface cutanée atteinte. Le deuxième risque c'est le retentissement sur la vie sociale et professionnelle des patients qui peuvent être exclus dans leur entourage familial mais également professionnel. Et enfin le troisième risque, c'est la méconnaissance des atteintes profondes du psoriasis. D'une part, l'atteinte des articulations que l'on nomme le rhumatisme psoriasique. Et d'autre part, un élément connu de façon récente qui est le syndrome métabolique et qui constitue une prédisposition aux accidents cardiovasculaires.
Le psoriasis fait intimement partie du quotidien des patients. Activité sociale, vie de couple et aussi vie professionnelle, la maladie peut avoir un impact important sur leur vie de tous les jours. Aussi, afin de mieux renseigner les personnes atteintes de psoriasis ainsi que toutes les personnes en général, 2000 pharmacies, ainsi que l'Association pour la lutte contre le psoriasis et le groupe Abbott ont mis en place un questionnaire. Il est à remplir avec la personne atteinte par le psoriasis, dans le but d'évaluer le degré d'intensité de la maladie et alors mieux adapter ses conseils pour la soulager. Jean-Noël Dahendorfer nous explique les bons gestes et traitements pour lutter contre le psoriasis.
Le traitement de première étape est représenté par les traitements locaux, donc crème, pommade, lotion. Ensuite, on peut passer à des traitements réservés à des surfaces de peau atteintes plus étendues. D'une par la photothérapie qui est l'utilisation de rayons ultraviolets UVA et UVB. Ensuite, des traitements qu'on dit systémiques, traitements sous forme de comprimés. Et enfin, des traitements injectables qui sont les traitements de dernière génération et que l'on nomme biothérapie.
Enfin, un guide pratique est également disponible en pharmacie, résumant les points essentiels à connaître sur le psoriasis, ses répercussions sur la qualité de vie des patients ainsi que sur les traitements qui existent aujourd'hui. Loin des idées reçues, le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse. Les personnes atteintes souffrent des répercussions physique, psychologique et sociale, c'est peut-être le moment d'en parler.
La radio qui veut du bien est un rendez-vous à ne pas manquer dans quelques instants avec Raphaël Devolvé qui nous parlera du porno. Oui, vous avez bien entendu, du porno. Alors à tout de suite.
En cas de danger majeur, qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Un équipement supplémentaire pour votre sécurité qui tient dans votre main. Votre téléphone. Grâce au dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre à l'abri, vous préparer, vous informer et vous protéger. FR Alert. Bien alerté, bien protégé.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé.
La radio qui vous veut du bien.
Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one l'ère d'Internet et du contenu vidéo à outrance, les films pornographiques n'ont jamais été aussi accessibles et regardés. Pour le compte d'un site pornographique, l'institut de sondage IFOP s'est penché sur l'évolution du regard du public, pas toujours averti, en interrogeant les consommateurs sur leur ressenti face aux images. En comparant les résultats de 2014 à ceux de 2009, on note qu'en 5 ans, les films X ont une influence grandissante sur la psychologie du spectateur. Les effets peuvent générer des complexes dans une certaine tranche d'âge, mais aussi rendre profondément pervers. Les films pornos sont principalement regardés par la tranche d'âge inférieure à 25 ans. C'est sans aucun doute la période de la vie où les jeunes hommes et femmes sont plus enclins aux complexes physiques. Car les films pornos, et c'est bien le cas de le dire, présentent un problème de taille. Plus d'un tiers du public français âgé de moins de 25 ans reconnaît avoir été complexé sur la taille de son pénis après avoir vu un film X où les membres des acteurs sont souvent surdimensionnés. Les jeunes hommes avouent pour une large majorité d'entre eux penser que la taille de leur pénis est un critère déterminant pour leur performance sexuelle. Avec l'âge, ce complexe semble néanmoins s'estomper, chutant à moins de 15% dans les tranches d'âge supérieures. Chez les filles, c'est l'épilation totale du pubis qui influence. Un sexe épilé dans sa totalité ou presque est une norme dans la grande majorité des films X. Ainsi, on remarque que près de la moitié des jeunes filles ayant moins de 25 ans optent pour ce type d'épilation. Les enquêteurs en charge du sondage établissent un lien clair entre ce choix esthétique et les goûts de leurs partenaires du même âge qu'eux, eux-mêmes influencés par les images. Mais le porno ne fait pas que complexer, il donne aussi des idées. 47% c'est la proportion de Français reconnaissant s'être inspiré des scénarios et des positions reproduites dans les films X, un chiffre en progression puisqu'il y a 5 ans, ce type de reproduction atteignait les 40%. Autre mode, moins répandu mais en hausse, celle du porno maison, puisqu'en 2014, les couples se filmant en train de faire l'amour atteignaient les 11%, alors qu'en 2009, ils n'étaient que de 6%. Autre statistique de l'enquête, plus sociologique, c'est l'affluence plus importante de la pornographie dans les catégories socio-professionnelles moins aisées, les fameuses CSP-.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Beauté, prévention, sport, consommation, recherche, bien-être. 7 jours sur 7, Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
Danser dans ce drame, le prendre à la légère, comment tu fais toi? De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire, comment tu fais?
C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi, rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas. Sur la vie au train où elle va. Quand tout va de travers, comment tu
jeunes autistes ont des difficultés à s'adapter aux modifications de leur environnement et adoptent souvent des comportements répétitifs et rigides. Ces comportements sont généralement interprétés comme un manque de flexibilité d'ordre cognitif, c'est-à-dire une difficulté à adopter une nouvelle règle. Mais des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Tours montrent qu'une autre raison peut expliquer ces comportements. Concrètement, les chercheurs se sont aperçus que les personnes autistes ont seulement des difficultés quand il s'agit de réagir à des informations sociales et émotionnelles. C'est alors qu'ils mettent en place des comportements rigides comme une stratégie d'évitement de ces situations particulières. Les autres situations ne leur posent pas davantage de problèmes qu'à n'importe quelle autre personne. Autrement dit, ils ne manquent pas de flexibilité cognitive. Par ailleurs, lorsqu'il y a besoin d'adopter un nouveau comportement, l'étude montre que l'activité cérébrale est plus importante chez les autistes que chez les autres personnes et que cette activité cérébrale se calme lorsqu'ils reçoivent la confirmation qu'ils ont identifié la bonne règle à adopter, comme si l'enjeu du choix était plus important et que la validation des autres était perçue comme rassurante. Ces travaux ouvrent de nouvelles pistes de compréhension et de prise en charge de l'autisme en proposant de ne plus dissocier le domaine cognitif et le domaine socio-émotionnel.
Vous écoutez,
la radio qui vous veut du bien.
Radio Public Santé.
Obligatoire de l'adolescence, l'orthodontie est souvent mal vécue par les jeunes adultes à un âge où l'image de soi est plus importante que jamais. Si la pose des fameuses bagues est un supplice pour ces ados, ils l'acceptent généralement, largement encouragés par le résultat à la clé. Et le traitement est parfois difficile. En effet, pendant le port des bagues, l'hygiène bucco-dentaire doit être irréprochable. Les consignes alimentaires doivent être respectées pour rendre le soin efficace. Et ça n'est pas toujours le cas avec les adolescents, souvent réticents à avoir une alimentation stricte. Pour le docteur Philippe Khalifa, orthodontiste, c'est un mal nécessaire.
Ils savent de toute façon que c'est moche, que c'est inesthétique, que ça fait mal, qu'il va falloir venir régulièrement, qu'il y a des contingences à la fois alimentaires et d'hygiène, et il serait bien mieux ailleurs que de venir ici. Mais ils ont bien compris que s'ils voulaient avoir un joli sourire et s'insérer maintenant, comme on dit dans la société, il faut le faire. Et puis leurs copains le font déjà. Et puis de toute façon, s'ils le refusent, ils peuvent toujours le faire à l'âge adulte.
Et pour avoir un beau sourire plus tard, les ados vont devoir tirer un trait sur les aliments qu'ils apprécient. Oubliez les chewing-gums, les bonbons durs, les pop-corns ou encore les pizzas. Mais pas seulement, les fruits et légumes durs comme les pommes ou les noix sont également à bannir. Alors quand commencer ce traitement? En moyenne, c'est vers 12 ans que les dents de lait disparaissent totalement et que le soin peut commencer. Si certains enfants doivent attendre 14 ou 15 ans, attention à ne pas trop tarder pour consulter son orthodontiste. En effet, après 16 ans, la prise en charge partielle par la sécurité sociale n'est pas assurée.
C'est la radio qui vous veut du bien avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé et nous parlerons cette fois-ci de découvertes.
Mon rêve, c'est de devenir championne de catch. Grâce à l'association Petit Prince, j'ai réalisé ce rêve. Je suis montée sur un ring et j'ai mis KO un catcheur professionnel, comme je mettrais KO ma maladie.
Pour que d'autres enfants malades réalisent leurs rêves et trouvent l'énergie de se battre contre leur maladie, soutenez l'association Petit Prince. Faites un don sur
petitprince.com.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio
qui vous fait du bien.
To go to sleep when I got you next to me.
Come on, hold on. sanitaire, l'ANSES a indiqué mercredi que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien entre la qualité de l'air dans les avions et les symptômes signalés par le personnel de cabine. L'ANSES a été sollicité en 2019 par plusieurs syndicats et l'Association des victimes du syndrome aérotoxique, l'AFSA, qui décrit une contamination de l'air pressurisé des avions par des substances toxiques. Le rapport de l'ANSES cite un comité d'experts qui reconnaît la présence de nombreux polluants dans les cabines d'avions, mais estime que les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les risques sanitaires liés à cette situation. L'ANSES considère qu'il existe un niveau de preuve faible à la désignation d'un syndrome spécifiquement lié à l'exposition à divers polluants. L'agence encourage les études qui permettront d'apporter des connaissances sur les causes d'événements de contamination de l'air des cabines et leurs conséquences sur la santé du personnel navigant.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique Consommation. Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
fatigue musculaire, anxiété ou paupières qui tremblent, vous souffrez probablement d'un manque de magnésium. En France, plus de 70% des adultes ont un apport insuffisant en magnésium. Pourtant, ce minéral est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Il permet une bonne solidité du squelette, une bonne transmission de l'influx nerveux et participe à la diminution des crampes musculaires. Le magnésium se trouve principalement dans les produits céréaliers, les fruits de mer, les bananes ou bien encore le chocolat. Mais vous ne le savez sans doute pas, certaines eaux ont également une concentration très élevée en magnésium. C'est le cas des eaux Épare, Onza ou bien Kézac. Un litre de ces eaux contient plus de 100 mg de magnésium. Elle permet un apport important en minéraux et facilite le transit intestinal. Traditionnellement, ces eaux étaient conseillées lors de constipation, de fatigue, de stress ou de crampes. Au début du XXe siècle, il était même considéré que seules les personnes réalisant une cure pouvaient boire cette eau, tant elle était riche en minéraux essentiels. Bien évidemment, le magnésium peut être apporté par l'alimentation, mais si vous mangez de manière déséquilibrée ou si vous ne variez pas assez votre nourriture, il peut être intéressant de consommer une eau riche en ce minéral essentiel à l'organisme. Effectivement, un adulte doit consommer en moyenne entre 300 et 400 mg de magnésium par jour. Alors si vous pensez que votre apport journalier est insuffisant, n'hésitez pas à boire de l'eau chargée en minéraux.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. To the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories, bring back your.
Radio Public Santé, votre chronique découverte. Antoine Banaïté.
Si je vous dis Helmut Newton, Uderzo ou encore Mark Zuckerberg, vous me demanderez sans doute quel est le lien entre ces trois personnalités. Eh bien, comme 8% des hommes et 0,5% des femmes, tous trois sont daltoniens.
Le daltonisme touche d'ailleurs 10 millions d'Européens. Alors, être daltonien, c'est quoi ? Eh bien, c'est avoir un défaut de perception des couleurs. Généralement, le rouge et le vert se ressemblent beaucoup et seul le bleu ne change presque pas. Vous comprendrez mieux pourquoi Mark Zuckerberg a choisi le bleu pour son fameux réseau social. Mais attention, ceci concerne uniquement la forme la plus répandue du daltonisme, appelée la 2T anomalie, où il n'y a pas ou peu de perception du vert. Mais d'autres formes existent. La deuxième la plus répandue est celle où il n'y a pas ou peu de perception du rouge. Ceux qui ont cette pathologie ont à peu près la même vision que ceux qui ne perçoivent pas le vert. Ces deux pathologies touchent à elles seules la grande majorité des daltoniens, qui ont alors une vision faite essentiellement de nuances de jaune et de bleu. Enfin, les trithanotopes qui ont une mauvaise perception de la couleur bleue sont, eux, très rares. Leur vision est surtout faite de nuances de rouge et de rose. Mais encore plus rares sont ceux qui ne perçoivent aucune couleur. On appelle cela le monochromatisme. Une personne sur 40 000 est achromate. Ils ont une vision en noir et blanc avec des nuances de gris. L'île de Pohnpei est en cela unique puisque 8% de sa population ne voit pas les couleurs. C'est un trouble très rare et très gênant car il y a également une extrême photosensibilité entraînant une mauvaise vision lorsque la luminosité est trop forte. Les daltoniens vivent normalement parmi nous et nous ne remarquons que rarement leurs différences. Et lorsque l'on sait que Beethoven était presque sourd, on se dit vraiment que n'importe quel daltonien peut devenir un grand artiste.
Radio Public Santé est disponible à l'écoute en direct et en podcast partout dans le monde sur votre téléphone et tablette avec l'application Radioline. Radioline. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store.
thyroïde vous jouer des tours? Tel est le sujet santé à suivre à l'antenne de la radio qui vous fait du bien.
Alors Thomas, pour l'année prochaine, qu'est-ce que t'as décidé? Médecin ou infirmier?
Maman, il n'y a pas que ces deux métiers-là dans la santé.
Ah bon?
Bah oui, t'as informaticien, orthoptiste, aide-soignant, ingénieur biomédical, manipulateur radio, ambulancier, il y en a plus de 200.
200? N'importe quoi.
Bah si, 200.
Faut toujours que t'exagères.
Ça peut surprendre, mais le secteur de la santé, c'est 200 métiers et autant de façons de voir son avenir. Ceci est un message du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Plus d'infos sur métiers.santé.gouv.fr.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio
qui vous veut du bien.
Rhythm is love. The feeling called musical. Hey yeah. Hey yeah. Ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust, because all of the sexual things we do, in my mind I trust you to make them all colorful. Hey yeah.
Thyroïde vous jouez des tours.
Cette petite glande, située à la base du cou et en avant du larynx, empoisonne la vie de près de 6 millions de Français. Véritable chef d'orchestre de notre organisme, les hormones thyroïdiennes jouent en effet un rôle essentiel pour la régulation de toutes ses fonctions. La moindre perturbation de son fonctionnement peut donc avoir des répercussions suffisamment invalidantes et sérieuses pour que nous y prêtions une attention toute particulière. Parmi les troubles les plus fréquents de cette dernière, on trouve l'hyperthyroïdie ou bien l'hypothyroïdie. Dans les deux cas, ce sont des situations pathologiques et seul un médecin permettra de poser un diagnostic fiable. On parle d'hyperthyroïdie lorsque la thyroïde ne produit pas assez d'hormones. Perte de poids, nervosité extrême, tremblements, diarrhée ou transpiration abondante sont quelques-uns de ces symptômes. En cas d'hypothyroïdie à l'inverse, le manque d'hormones entraîne une extrême sensibilité au froid, accompagnée d'une prise de poids ainsi que d'une sensation de très grande fatigue. Un goitre thyroïdien peut alors faire son apparition. Celui-ci se manifeste par un gonflement au niveau du cou, souvent décelable au toucher. Les effets du stress sur la glande ne sont pas non plus négligeables. Il n'est pas rare qu'un stress ou un choc émotionnel déclenche une affection thyroïdienne. Chez les femmes, davantage exposées que les hommes, ces dérèglements interviennent souvent au moment de la grossesse, de l'accouchement ou de la ménopause. Chez l'enfant, en revanche, les hyperthyroïdies sont plus rares et sont alors responsables d'une accélération de la croissance et de la dentition. Le traitement d'une hypothyroïdie repose sur la prise quotidienne d'hormones thyroïdiennes. Ce traitement, qui devra souvent être poursuivi tout au long de l'existence, n'entraîne aucun effet indésirable, puisqu'il ne fait que remplacer une hormone manquante. Néanmoins, une surveillance clinique régulière est nécessaire pour dépister un surdosage ou un sous-dosage. Il est aujourd'hui possible de soigner la plupart des désordres thyroïdiens. Il faut le faire le plus rapidement possible, pour les multiples désagréments qu'ils peuvent entraîner, mais aussi pour les troubles plus lourds qu'ils peuvent provoquer à long terme.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé.
La radio.
La radio qui vous veut du bien.
Il n'y a pas de mots pour le dire. Ce sera pire. Décrocher la lune si je n'ose. Craindre les heures qui s'enterrent. Celles qui sonnent toujours plus fières. Balancer les dires et les choses. Il paraît.
États-Unis, la gym poussette ou sport poussette est le nom des cours de sport en plein air pour jeunes mamans encadrés par un coach sportif. Marche active, renforcement musculaire, étirement tout en promenant votre bébé installé confortablement dans sa poussette, la gym poussette combine le plaisir du sport à celui de partager une activité avec son enfant. Les séances de gym poussette durent généralement une heure et commencent par un échauffement qui permet au bébé de s'endormir. Elle se poursuit d'exercices cardiovasculaires et de fitness qui permettent aux jeunes mamans de retrouver une forme physique et de perdre du poids après leur accouchement. Ces séances leur offrent aussi une activité entre elles qui favorise la fin de la petite dépression post-natale. Ces exercices sont tous parfaitement adaptés aux spécificités du corps d'une jeune femme après son accouchement, ce qui permet une reprise en douceur d'une activité sportive. Si vous voulez tenter l'expérience, sachez toutefois que vous ne pourrez participer à une séance de gym poussette que 8 semaines après votre accouchement et que l'avis d'un médecin est recommandé.
Réécoutez cette chronique et échangez vos avis sur internet www.publicsante.com.
Bonjour à tous. Justice. Le gouvernement va créer un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. C'est ce qu'a annoncé dans la tribune dimanche le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui. Ce nouveau parquet, baptisé PNACO, viendra renforcer notre arsenal judiciaire pour mieux lutter contre la délinquance du haut du spectre, a expliqué le garde des Sceaux. Autre projet, d'ailleurs, annoncé par le ministre, celui de la création d'un véritable statut du repentir, inspiré du modèle en vigueur en Italie pour lutter contre la mafia. Élections européennes, le Rassemblement national ne propose rien dans la campagne des